Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les 3 coups sur les ondes. Si c'est la première fois que vous nous écoutez, sachez que dans les 3 coups sur les ondes, on vous parle de pièces produites sur scène lors du festival des 3 coups. Hors Covid, le festival se tient de mars à avril. Mais cette année, la culture est bouleversée et le festival s'adapte en diffusant les pièces produites sur sa chaîne YouTube et Twitch à partir du 5 avril. Tout au long de cette émission, vous aurez l'habitude d'entendre plusieurs voix. Aujourd'hui, vous m'entendez moi, Doriane Rochet, notre chroniqueuse Amélie Rochet et mes invités Louise Lefebvre et Nel Buton. Et pour cette émission, on vous parle de Souviens-toi ta mère l'été dernier, écrit et mis en scène par Louise Lefebvre. Bienvenue sur les 3 coups sur les ondes. Une soirée familiale, un bébé à venir, un sexe à dévoiler et du sexe à assumer. En bref, une comédie tout sauf romantique. Une pièce où l'on raconte un grand nombre de questions sociétales sous couvert de l'humour gras. Je vous laisse maintenant avec Amélie Rochet qui va vous parler plus amplement de la pièce.
Je m'appelle Amélie et je vais vous parler de la pièce « Souviens-toi ta mère l'été dernier ». Ce qui m'est apparu évident à la lecture de la pièce, c'est que « Souviens-toi ta mère l'été dernier » est une pièce qui dénonce les stéréotypes, à l'encontre des femmes bien sûr, mais également les stéréotypes de genre de manière plus globale. En effet, tout d'abord, la pièce se déroule à l'occasion d'une gender reveal, soirée à l'origine américaine qui ont pour but que des futurs parents révèlent le sexe de leur enfant en, par exemple, faisant exploser un ballon plein de confettis qui se révèle bleu ou rose, suivant le sexe de l'enfant. Dans la pièce, la plupart des personnages ont des conceptions stéréotypées sur le genre. Par exemple, Adam et son frère Gaëtan ne cessent de faire des réflexions sexistes et Mercedes et Emily soulignent le fait que les petites filles devraient se voir offrir des poupées et qu'elles sont des princesses. Le thème du genre m'a immédiatement ramené au film The Danish Girl de Tom Hooper, sorti en janvier 2016. Ce film, tiré d'une histoire vraie, a pour thème le transgenre et son acceptation progressive par les proches des intéressés, dans une société dans laquelle un tel sujet est tabou. The Danish Girl retrace la vie de deux peintres danois en 1930, Greta Wegener et Lili Elbe, née Einar Wegener. Einar est né homme, il peint des paysages et rencontre beaucoup de succès pour ses œuvres. Son épouse, Greta, peint des portraits. Elle se heurte à beaucoup de préjugés sur la cause des femmes et peine à trouver des galeries ou des musées qui acceptent d'exposer ses œuvres. Un beau jour, pour jouer, Greta demande à son mari de porter une tenue de femme afin qu'elle peigne son portrait. C'est de cette expérience que Lily commence à s'exprimer dans le corps d'Einar. Greta va peindre plusieurs fois son portrait et rencontrera un succès grandissant. De plus en plus, Lily s'exprimera plutôt qu'Einar. Ce film est remarquable à plusieurs aspects. Tout d'abord, le début du film, comme la pièce, accentue les divers stéréotypes qui peuvent sévir. La facilité des hommes à accéder à certains postes, la difficulté des femmes qui ne souhaitent pas n'être qu'épouses et mères, mais aussi le refus d'avoir des enfants. Puis la question des stéréotypes de genre, et plus précisément du transgenre et de la déconstruction de ces stéréotypes, intervient en deuxième partie. Greta, l'épouse, laisse Lily s'exprimer dans le corps de son mari. Elle accepte sa présence, l'encourage même à se présenter en public et lui donne confiance en elle avant de se rendre compte de la place prise par Lily dans sa vie et du fait que son mari, lui, ne reviendra plus. La question de l'homosexualité intervient ensuite. Remise dans le contexte de l'époque, c'est-à-dire dans les années 30, la vie de Greta Wegener et Lily Elbe est remarquable d'acceptation et d'ouverture d'esprit dans une époque où les stéréotypes de genre ont la vie dure. Sans aborder directement le même sujet, les deux œuvres nous permettent de nous rendre compte de nos comportements et de nos idées préconçues sur le genre. Elles nous permettent une autocritique, afin peut-être de nous alerter sur nos propres comportements et de faire évoluer nos idées pour tendre vers une pleine acceptation de l'autre, peu importe son genre.
Thank you.
Nous accueillons maintenant Louise Lefebvre, dramaturge et metteuse en scène de la pièce « Souviens-toi ta mère l'été dernier » et Nel Buton qui joue le rôle de Clotilde. Clotilde est une jeune femme avec des engagements politiques forts et qui déplaisent beaucoup à ses amis. Du coup, pour commencer la table ronde, je vais vous demander l'engagement que vous avez voulu mettre dans cette pièce de théâtre.
Alors moi, je suis très engagée dans le combat féministe depuis un bon moment maintenant. Je suis née et j'ai été élevée dans une famille qui s'engageait beaucoup dans les libertés de chacun et de chacune. Une famille de gauche, ça s'appelle, je crois, de profs. Et du coup, ça me semblait important, même si je voulais écrire une pièce humoristique, enfin une comédie, de glisser un petit peu partout mes engagements.
Et toi, en tant que comédienne, comment tu vis cet engagement, justement ?
Alors, déjà, j'ai eu un petit coup de cœur pour la pièce, justement, pour son côté humour, mais pour aussi tous les messages qu'elle apportait derrière. Et j'ai eu envie de jouer, et ça m'a donné super envie de jouer ce rôle-là, qui me correspondait quand même vachement. Et voilà, je suis super heureuse de vous voir jouer.
Dans la pièce, il y a beaucoup de thèmes qui sont des sujets un peu tabous dans la société en ce moment. Je voulais justement savoir qu'est-ce que vous vouliez transmettre, quels étaient les thèmes vraiment importants dans cette pièce.
Alors effectivement, le thème qui ressort beaucoup dans la pièce, c'est aussi celui qui ressort beaucoup chez moi, c'est le féminisme que je ramène H24 dans mes discussions, même quand il n'est pas demandé. Et donc oui, c'est un thème qui est beaucoup abordé, qui est légèrement tourné en dérision, parce que je ne voulais pas que ça devienne quelque chose de lourd, y compris pour l'œil, enfin les spectateurs en règle générale. Mais ouais, le féminisme qui est bien bien en place et que je ramène comme je peux, pareil que dans mes discussions en fait, dès que possible.
Il y a aussi beaucoup la question du genre. Est-ce que pour toi, du coup, c'est un sujet qui rentre complètement dans le féminisme ou c'est un autre sujet qui est aussi important ?
Non, pour moi, la question du genre est vraiment liée au féminisme. Après, il y a énormément de courants différents dans le féminisme en lui-même. Et tout le monde ne serait pas d'accord avec moi, mais je pense que c'est hyper important et ça fait partie de nos vies aujourd'hui. En tant que jeune et en tant que nouvelle génération, de porter ça et d'oser l'amener aussi, quelle que soit la manière, d'oser l'aborder, d'oser le défendre, d'oser parler de la question du genre pour que ça devienne justement de moins en moins tabou, comme tu le dis. Et c'était important pour moi de le ramener.
Est-ce que du coup, pour toi, avoir choisi cette pièce, c'était aussi amener justement ce côté féminisme, etc., dans ton jeu ?
Oui, aussi. Le fait que je joue Clotilde, qui se retrouve face à plein de monde. Et en fait, elle se retrouve dans une situation dans laquelle nous, aujourd'hui, en tant que jeunes, on se retrouve beaucoup. Je sais que dans mon entourage, on commence de plus en plus à parler de féminisme, de la question du genre, tout ça. C'est des sujets qui s'ouvrent et commencent à parler énormément. Et qu'on se retrouve très souvent face à des adultes pas ouverts sur le sujet et qui comprennent pas ça. Et j'ai trouvé la manière d'aborder tout ça vraiment intéressante, intelligente. Et donc oui, moi, c'est des sujets que j'aime beaucoup aussi et auxquels je porte beaucoup d'importance. Donc c'est super que je puisse jouer là-dedans et toucher à tout ça, en fait.
Si on prend le rôle de Clotilde, comment vous voyez le rôle, toutes les deux, de vos deux points de vue différents, metteuse en scène et comédienne ?
Pour tout avouer, moi, Clotilde, c'était clairement, je l'ai écrit en mode « c'est moi hein. ». C'était vraiment en mode « si j'étais dans cette situation, qu'est-ce que je dirais et qu'est-ce que je mettrais en avant ?» Après, forcément, ça reste de la création et de l'imagination. Je n'ai pas envie que mes proches s'identifient aux différents personnages de la pièce. Mais voilà, j'ai vraiment mis de moi, en fait, dans le personnage et avec les complications qu'elle retrouve dans le fait que les autres personnes présentes dans la pièce la dénigrent, en fait, en quelque sorte, pour juste ce qu'elle dit et ce en quoi elle croit et ses combats, quoi. Et c'est vraiment en partie mon quotidien parce que, en fait, par exemple, pour la question du genre, au-delà d'être tabou, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement moqué. Enfin, tout le temps sur les réseaux sociaux et tout le temps quand... même dans la vie de tous les jours, dès que quelqu'un s'identifie à un genre différent de celui qu'il est, il y aura forcément quelqu'un dans le coin qui dira « Ah, moi, je m'identifie à un tyrannosaure. Ah, moi, je m'identifie à un aspirateur Dyson. » Et t'es vraiment là, genre... Ok, donc en fait, c'est même plus un tabou, c'est juste un truc qui vous amuse, alors que c'est hyper important pour les gens. Voilà.
Et pour moi, alors, Clotilde, je la vois un petit peu comme moi, mais... pas vraiment, dans le sens où c'est vraiment une fille qui va débattre de plein de choses et combattre pour ce qu'elle croit, en ce qu'elle croit. Et c'est vrai que je l'aime pour ça, parce que c'est vrai que dans les débats, je pense, mais je ne m'incruste pas dans les débats, justement, parce que, bon, des fois, face à certaines personnes, on se dit que vaut mieux pas débattre. Mais... j'aime le fait qu'elle elle ose parler, malgré que tout le monde autour d'elle soit contre elle. Et pour moi, c'est vachement une fille de mon âge qui est sur les réseaux sociaux et qui petit à petit prend en compte tout ce qui se passe dans le monde et qui est indignée par tout ça. Et qui comprend juste pas que les autres personnes ne se rendent pas compte de tout ce qui se passe et de toutes ces choses hyper importantes, quoi.
On sent que toutes les deux, vous avez vraiment mis du vôtre dans la pièce et dans le rôle. Du coup, je voulais un peu aborder la question du militantisme. Pour vous, cette pièce, c'était aussi un moyen de militer pour quelque chose ou contre quelque chose ?
Alors, c'est la troisième pièce que j'ai écrite et que je joue dans l'association... Attendez, j'ai dit quoi ? Je refais. C'est la troisième pièce que j'écris pour l'association des trois coups et la deuxième que je mets en scène. Et déjà, dans la première, c'était un couple lesbien, quelque chose que je voulais un peu aborder et mettre en avant, parce que ça fait quelques années que je suis dans l'association et il ne me semble pas avoir déjà vu de couple homosexuel, quel que soit le genre. Et du coup, ça me semblait important de mettre un petit peu un coup de pied dans la fourmilière. Et de dire, c'est bon, il faut normaliser ça, il faut l'amener, là, voilà. Il y a 2 ans, on a fait un couple homosexuel, maintenant, on va balancer du féminisme, la question du genre, et puis y aller, quoi.
Et de mon côté, alors j'ai commencé vraiment à m'intéresser au féminisme il y a quelques années. Enfin, tout simplement parce que j'ai grandi et que j'ai pris compte aussi que je devenais une femme et... de tout ce que j'avais le droit ou ne pas le droit de faire. Mais j'ai appris tout ça sur le fait. J'ai eu un coup de poing le jour où j'ai appris la mort d'une copine qui avait été frappée par son copain. Donc elle est morte comme ça. Et je l'ai appris par les réseaux sociaux. Et ça m'a mis un coup énorme. Et de là, je me suis abonnée à énormément de comptes. Je me suis renseignée. Et j'ai pris compte de tout ce combat, en fait. Et depuis, c'est hyper important pour moi de parler de tout ça. C'est pour ça que j'en parle de plus en plus. Dès que je peux, je parle d'elle, parce que je trouve que c'est hyper important aussi. Enfin, c'était mon amie et je l'aime, et les gens, ils se rendent pas compte que ça arrive dans la vraie vie. Et cette pièce, en fait, je l'ai aimée... aussi quand j'ai compris que Louise était féministe et que tout ça, ça lui tenait à cœur. Et je me suis dit, bon, je comprends le sens de tout ça. J'aime beaucoup, beaucoup parler de ces combats-là dans tous mes projets artistiques, théâtre, tout ça. Donc c'est pour ça que j'ai accepté de venir jouer.
Vous utilisez la comédie et surtout la caricature dans la pièce. Je voulais savoir pourquoi avoir choisi la comédie et encore plus pourquoi avoir choisi la caricature pour parler justement de sujets comme ça.
Alors pourquoi avoir choisi la comédie ? Moi j'écris depuis très longtemps, depuis environ ma troisième. Et c'est vrai que j'avais plus l'habitude d'écrire des textes relativement mélodramatique, limite philosophique, nanani nanana. Et en fait, l'année dernière, je vais faire un petit peu de pub pour Angéloquence, mais j'ai participé au faux procès du Joker et au concours interfilière d'éloquence. Et j'ai vu que j'étais capable aussi de faire rire. J'étais aussi capable de provoquer d'autres émotions que la compassion et l'empathie et un peu de tristesse. Et c'est quelque chose que j'aime bien, c'est quelque chose dont je me sers pour créer du lien aussi avec les autres et les mettre à l'aise, c'est l'humour et voilà, faire rire. Dans mes études de psychologie sociale, on apprend aussi que c'est une très très bonne stratégie de coping, donc pour faire face au stress, c'est une très très bonne stratégie pour créer du lien, etc. Donc c'était important pour moi aussi d'écrire quelque chose qui fasse retentir ça chez les gens. L'année dernière, j'ai joué dans la pièce de Quentin Bessot aux trois coups, donc qui s'appelait Le Noir te va si bien et qui, pareil, était une comédie. Et voilà, je suis un peu entrée dans ce truc de c'est possible et ça peut être cool et je vais essayer et on verra bien ce que ça donnera, quoi. Donc voilà, et puis la question de la caricature, c'est... je pense que... bon là, ça, c'est ce qui me vient, hein. Si ça se trouve... D'ici 2 heures, je me dirais, mais qu'est-ce que j'ai raconté? Mais la caricature, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Ce serait nier de dire que c'est faux. Enfin, bref. Et sauf que aujourd'hui, quand on dit caricature, c'est surtout tout cet humour que je n'aime pas avec les accents, dire que les Allemands, c'est des nazis, etc. etc. vraiment ramener aux préjugés des trucs qui sont hyper mauvais et même plus drôles ni originales, vu qu'on fait ça depuis les années 70. Donc je trouvais ça bien de me baser un peu sur autre chose et juste prendre des personnages qui, moi, me font rire ou des personnages que, moi, j'utilise pour faire des blagues avec mes potes ou tout ça. Et voilà, de concentrer ça dans une pièce et essayer d'apporter un peu d'humour, quoi.
Et du coup, toi, comment tu le transmets sur scène en tant que comédienne ?
Alors, avec mon personnage, je pense que c'est vachement par rapport au visage. Après, je suis le personnage... le plus, comment dire, le plus sage de la pièce. C'est-à-dire que, bon, toutes les blagues, tout ça, c'est pas forcément moi qui les ai, mais c'est pour ça qu'au niveau caricature, je pense que c'est vraiment plus au niveau du visage, parce que je suis pas vraiment une fille excentrique. Donc je le vois comme ça. Oui, sinon, c'est super intéressant, j'adore ça.
Est-ce que vous n'avez pas un peu peur que, du coup, cette caricature, elle soit peut-être pas assez forte ou comprise comme une caricature et, du coup, que le premier sens soit pris en tant que tel dans la pièce, quoi, pendant qu'elle est jouée ?
Alors, il y a un personnage en particulier qui est vraiment une caricature, c'est le personnage de Gaëtan qui, à mes yeux, c'est vraiment compliqué de le prendre complètement au premier degré, parce qu'il y a énormément d'indices qui ne deviennent même plus des indices, qui sont clairement... je suis un peu zinzin. Et... Bah écoutez, le problème du premier degré, il est là tout le temps, en fait. C'est... Il faut aussi apprendre à prendre du recul et... Je sais pas.
Oui, et puis aussi, je rebondis, ces personnages-là, oui, je trouve qu'ils sont assez caricaturés que les filles les interprètent vraiment bien. Et aussi, le fait que ça soit que des filles qui jouent ces personnages-là, d'hommes, tout ça, vraiment, leurs rôles leur vont parfaitement bien. Et je trouve que tout ça, ça se mêle très bien. Et en tout cas, de mon côté, j'ai vite vu la caricature. Et je pense que ça ne sera pas vraiment un problème. Et que les gens qui ne comprendront pas, bon, bah, soit on leur explique, soit tant pis, quoi. Mais je pense que c'est assez bien fait.
Donc, c'est une pièce qui est jouée en huis clos. J'aimerais savoir comment... Enfin, qu'est-ce qui permet... Enfin, qu'est-ce qu'apporte le huis clos dans la pièce pour vous ?
C'est moins chiant que de bouger de pièce et les décos et tout. C'est majoritairement pour ça. Non, mais en fait, je me suis ce serait faux de dire que je me suis pas un peu inspirée du prénom dans tout ce qui est la mise en scène, etc. Et en fait, j'ai trouvé ça tellement pratique. Rien que l'idée de pouvoir faire toute une pièce dans un seul endroit, ça, puis ne pas bouger de décor, ça représente aussi un repère pour les spectateurs. Ça représente une possibilité de pouvoir se concentrer uniquement sur l'histoire et uniquement sur les dialogues, etc. Et puis ça évite de faire des noirs, ça évite de faire du bruit dans les changements de décor, ça évite plein de choses. Puis il y a beaucoup d'histoires où, avec des changements de décor qui se sont mal passés, où il y a des décors qui tombent, où il y a des gens qui se blessent, etc. En fait, c'est tellement une embrouille. C'est tellement une embrouille et puis une organisation qui demanderait trop d'efforts cognitifs que je ne suis pas capable de fournir. Donc un huis clos, c'est très bien pour énormément de choses, quoi.
Et après, niveau technique, c'est sûr, c'est plus simple. Même là, on n'a fait que des répètes. On n'a fait qu'une seule répète en vrai. Et personnellement, je ne m'inquiète pas trop pour la mise en scène parce que c'est plutôt simple. On est tout le temps là. Il y a juste les déplacements à revoir. Bon, après, pour les comédiennes, ça veut dire qu'il faut qu'on reste sur scène tout du long et ne pas flancher, ça c'est sûr, ça va être dur. Mais oui, le huis clos, j'aime bien cette idée aussi. C'est un travail quand même d'une heure pour les comédiens, c'est hyper intéressant, quoi.
Et puis, mine de rien, dans le contexte du Covid, c'est quand même très arrangeant de ne pas avoir à changer des décors dans le noir et à possiblement se retrouver l'un contre l'autre, etc., ou à devoir se cacher dans les toutes petites coulisses qui sont sur les côtés de la scène. Enfin, c'est quand même bien pratique, quoi.
Du coup, comme vous abordez le sujet du Covid, comment vous l'appréhendez, vous, sur scène et par rapport aux répétitions aussi précédentes, etc.?
Alors, par rapport au Covid, dans les répétitions, en fait, du coup, on n'a fait qu'une seule répétition en vrai, le reste, c'était à distance. On n'avait pas encore les consignes qui ont été données relativement récemment par rapport à la pièce en elle-même à jouer et la captation. Et en fait, il faut encore qu'on prenne une décision qui n'est pas si difficile que ça. En fait, on a énormément de chance d'être une pièce qui est relativement courte, qui ne demande pas d'énormes contacts, et surtout qu'il est possible de modifier sans trop de problèmes. Vu que ça reste sur le thème d'une soirée, en fait, on peut très très bien l'adapter au Covid en disant que la soirée, c'est pas juste pendant le Covid, et du coup, on esquive le fait de s'embrasser, on évite d'être les uns contre les autres, enfin... En fait, soit on adapte notre texte un tout petit peu, ce qui ne va rien représenter. Au final, c'est juste quand ils se rencontrent, quand ils arrivent ensemble, ne pas se faire la bise et dire non, c'est le Covid. Ou opter pour la solution des masques transparents et des visières. Mais l'un dans l'autre, en fait, c'est assez facile et on a beaucoup de chance, quoi.
Oui. Et puis, voilà, je pense qu'on va savoir s'adapter assez facilement. En plus, c'est une pièce qui est vachement actuelle, donc le Covid, c'est la Covid, c'est vachement actuel aussi. Et sinon, c'est vrai que pour les répètes, les avoir fait en visio, c'était vraiment spécial. Mais quand on s'est vu pour la première fois, je trouve qu'il s'est vraiment passé quelque chose. Et c'est pour ça que ça serait trop cool de pouvoir la jouer, au moins d'être filmée. J'avoue que j'aimerais vraiment qu'on puisse faire cette captation. Enfin faire un projet jusqu'au bout. Et, mais sinon, oui, voilà, on arrive à s'adapter plutôt bien.
Ouais, sur ce sujet, je peux te rassurer, il y aura captation, c'est sûr et certain. On ne connaît pas tout le temps trop les choses qu'il faudra faire, etc. Mais c'est sûr, il y aura une captation dans tous les cas. Eh bien, merci beaucoup d'avoir fait ce petit temps avec nous. Est-ce que vous voulez dire un dernier mot sur la pièce pour donner envie, pour, accrocher un peu le spectateur ?
Eh bien, je vous invite à venir parce que Clotilde est une fille incroyable, actuelle, très mignonne de plus. Et c'est une pièce qui m'a surprise et qui me fait beaucoup rire encore aujourd'hui, alors que ça fait des milliers de fois qu'on la répète. J'adore les autres comédiennes, la metteuse en scène est pas mal non plus, ça va.
Oui, j'ai mis mon maximum pour être à peu près drôle. J'ai l'impression que ça marche plutôt bien parce qu'effectivement, les comédiennes et moi-même, on a du mal à ne pas rire pendant qu'on fait les répétitions, alors qu'effectivement, on les a déjà... Enfin, on le connaît, le texte, quoi. Ça fait au moins 20 fois qu'on entend les mêmes vannes. Et à chaque fois, c'est toujours drôle. Enfin, j'ai beaucoup de chance d'avoir ces comédiennes. Il y en a une très très bonne partie qui n'a jamais fait de théâtre et qui pourtant est incroyable au niveau du jeu. C'est impressionnant, le rythme est très bon, il y a eu un très très bon travail. Puis voilà.
Oui.
Une bonne pièce, quoi.
Oui, ça restera une très bonne expérience dans tous les cas. Et oui, super.
Bah, merci beaucoup.
Merci à toi.
Merci.
Souviens-toi, ta mère l'été dernier est une pièce écrite et mise en scène par Louise Lefebvre. C'est un huis clos où se joue une gender rival. Mais qu'est-ce que c'est qu'une gender rival? Excusez mon accent. Vous connaissez la baby shower, la fête qui met à l'honneur la future maman? Il y a désormais la Gender Rival Party, qui permet aux futurs parents de réunir leurs proches et de leur dévoiler, à cette occasion, le sexe du bébé. Souvent, il est coutume que les parents découvrent le sexe de leur enfant en même temps que leur invité, et ce, de manière amusante et originale, comme par exemple, exploser un ballon avec des confettis rose ou bleu, selon si c'est une fille ou un garçon. Cette nouvelle façon d'annoncer l'heureux événement est popularisée par l'écrivaine américaine Jane Kervenidy, qui, en 2008, découpait un gâteau dont la couleur intérieure révélait qu'elle était enceinte d'une petite fille. 10 ans plus tard, la jeune femme confie regretter d'être à l'origine de cette popularité. Elle déclare « Qui accorde de l'importance au genre de son bébé ? Je l'ai fait parce que nous ne vivions pas en 2019 et nous ne savions pas ce que nous savons maintenant. Le fait qu'assimiler un genre à la naissance prive les enfants de leur potentiel et de certains talents qui n'ont rien à voir avec ce que nous avons entre les jambes. Dans cette pièce, deux fratries se retrouvent, la sœur de la future maman et le frère du futur papa. Ce dernier arrive sans prévenir avec sa copine du moment que personne ne connaît. Mais cette fête va vite tourner au cauchemar, notamment par le fait que Clotilde, la sœur de la future maman, ait un avis très tranché sur la question du genre, ce qui ne met pas tout le monde d'accord. Dans cette comédie où se mêlent caricature et humour graveleux, la dramaturge permet aux spectateurs de se questionner sur des sujets tels que le féminisme et le genre. Cette émission fait partie de la saison 2 des 3 coups sur les ondes. Vous pouvez retrouver les épisodes sur le site Radio Campus Angers. Nous vous remercions de nous suivre et nous espérons que vous profitez des pièces diffusées sur Twitch et YouTube. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les dates de diffusion, suivez-nous sur Instagram et Facebook @festivallestroiscoups. Un grand merci à tous nos chroniqueurs et chroniqueuses d'avoir participé à notre émission. Juliette Chevet, Louise Lefebvre, Justin Loisy, Inès Poirier, Martin Bélier et Amélie Rochet. Merci à Radio Campus de nous prêter leur studio et leur matériel et de nous allouer leur temps. Merci également à Cobalt d'avoir cru en notre projet. Merci pour le mixage et le suivi de projet. Cette émission est réalisée par 3 membres du bureau des 3 coups, Zoé Paré, Emma Muller et moi-même, Dorian Rochet. L'émission est coproduite en partenariat avec Cobalt. Merci beaucoup pour votre écoute et à jeudi prochain, 16h30. À bientôt !